au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 25 novembre, j'espère que vous avez passé une bonne journée. À l'émission aujourd'hui, Céline Gauthier, directrice générale de Moisson-Lanaudière. On va parler de banque alimentaire avec Jacques Plante. Il sera question du référendum officiellement volé par Jean Chrétien. On apprenait ça dans l'actualité aujourd'hui. Simon Deschênes sera avec nous, président du syndicat des travailleurs du 6 de Lanaudière. On va parler de la campagne Je dénonce. Aussi à l'émission, Mathieu Lessard, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. Il sera question des élèves du secondaire qui ne pourront plus progresser d'une année s'ils ont coulé leur matière. Mais tout d'abord, des médecins d'un peu partout là, viennent de s'adresser au PDG de leur CIS et de leur CIUS là, pour qu'ils prennent position contre la loi 2. Il s'agit d'une initiative terrain et on ignore si une telle correspondance a été acheminée à Philippe Étier du CIS de la Lanaudière. Et François Morin en a discuté un peu plus tôt avec la vice-présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides Lanaudière, la docteure Laurie Vignola-Pigeon.
On semble noter que ces lettres-là, donc il y a plusieurs lettres là, dont nous, on a eu connaissance. On n'a pas la certitude que c'est tous les six, tous les PDG des six qui en ont reçu. En tout cas, du moins, je n'ai pas cette information-là. Mais on voit vraiment que c'est une initiative de médecins du terrain. Hein? Donc, c'est pas du tout quelque chose qui vient des fédérations ou qui vient justement de notre association. Donc, c'est vraiment des médecins de la base qui ont pris le crayon puis qui ont écrit au PDG. Donc, je pense que ça démontre vraiment le découragement là, de nos médecins.
Bon, j'arrivais là justement. Est-ce qu'on applaudit, entre guillemets, là, cette initiative-là?
Ben, moi, je pense que quand les médecins prennent la parole, hein, un médecin, c'est quelqu'un qui est dans son bureau, à l'hôpital, tu sais, qui s'occupe de ses patients, qui travaille beaucoup d'heures, qui est très occupé. Fait que quand un médecin prend la plume et écrit, je pense que oui, je pense qu'on peut applaudir ça, là, une initiative comme ça, effectivement.
On verra évidemment les effets. On verra si la direction du CIS Lanaudière a reçu la correspondance et va réagir d'une façon ou de l'autre. Mais en attendant, la dernière fois que j'ai parlé avec votre consoeur, la docteure Couture, il y a des médecins qui avaient déjà manifesté leur intention de partir. Il y a des cliniques médicales dont la survie était questionnée. Est-ce que ça a évolué là, depuis environ une semaine ou deux?
Mais c'est un petit peu les mêmes chiffres qu'on voit, hein? Donc les chiffres viennent d'un sondage que l'association a mené auprès de nos médecins membres là au sein de la Lanaudière Laurentide. On sait qu'à la base là le ministère estime qu'il y a un déficit de 103 médecins de famille dans la Lanaudière. Sur le terrain, on estime plus à 125, mais bref, jouons pas sur les mots. Puis quand on a posé la question à nos médecins de Laurentides, de Lanaudière, dans Lanaudière, là, c'était environ 27 médecins qui avaient entamé ou complété des démarches là pour quitter. Puis quand je dis quitter, ben ça peut être quitter là à l'extérieur, ça peut être prendre une retraite plus tôt que prévu, ou ça peut être juste réorienter là sa carrière pour faire autre chose que du suivi de patients en cabinet. Donc pour nous, c'est vraiment très préoccupant là. Donc on n'a pas le moyen là de perdre un médecin, en perdre 27 dans ma tête, c'est une catastrophe. Puis je pense qu'il faut aussi voir tout l'effet pervers qu'on va avoir, que cette loi-là va avoir sur le recrutement. Donc les nouveaux médecins qui sortent là, ben je pense qu'ils ont rapidement compris là que la médecine familiale c'était pas la priorité, c'était l'endroit où ça va être le plus difficile dans les prochaines années de pratiquer. Donc moi j'ai vraiment peur pour la pérennité de la médecine familiale dans les prochaines années. À mon avis, il va y avoir un gros trou noir de recrutement en plus des départs hâtifs. Puis les départs annoncés, ben dans ma tête, c'est que le début, hein, parce que la loi va s'appliquer, elle s'applique maintenant, mais réellement, elle va commencer avec les baisses de rémunération et tout ça à partir de janvier et pleinement à partir d'avril. Donc, probablement que on va être sur une pente encore plus glissante à ce moment-là.
Et pour rappeler aux gens que c'est cette baisse de rémunération qui, sans doute, engendre justement une difficulté à maintenir des cliniques ouvertes parce qu'il faut payer le personnel.
Absolument, absolument. Le ministère nous dit que ben le financement des cliniques ne sera pas touché, mais il faut comprendre que le financement, il y a une partie de financement là qui vient du ministère pour la plupart des groupes de médecine familiale, mais la grande part du financement, c'est quand même, ça sort des poches des médecins là. Fait que si les médecins voient leur rémunération diminuer de, tu sais, je lance des chiffres là, mais tu sais, chez nous, plusieurs ont fait l'exercice, puis dans mes médecins les plus performants, là, le genre de médecin qu'on veut avoir, là, avec une grosse clientèle, beaucoup, beaucoup de patients lourds, vulnérables, compliqués. Donc, ces médecins-là voyaient 31% là, de diminution de leur rémunération. Donc, c'est pas viable. On peut pas maintenir des cliniques à flot en payant le pied carré, le personnel, en voyant sa rémunération diminuer de 31%. C'est juste utopique de penser que ça peut fonctionner comme modèle.
En terminant, je ne sais pas si je perçois bien la situation, mais malgré la main tendue de la présidente du Conseil du Trésor, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de négociations.
J'appellerais peut-être pas ça des négociations, j'appellerais ça des discussions. Donc, il y a eu quand même 3 jours de discussion entre effectivement l'équipe de Mme Duranceau puis l'équipe de négociation de la FMOQ à la fin de la semaine dernière. Je pense que c'est un premier pas, mais il faut voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Mais sur le terrain, les médecins sont très anxieux, sont très découragés. Puis tu sais, je pense qu'il faut comprendre que tout ça, c'est les patients qui, les premiers, vont payer le prix de cette baisse de soins-là. Tu sais, c'est pas les médecins eux-mêmes. T'sais, les médecins, nous, on veut donner des soins, on veut prendre soin de nos patients, on les aime, on est là pour ça. Je pense que c'est là où il faut garder ça en tête. Là, c'est les patients qui vont être les premiers touchés.
C'était la docteure Laurie Vignola-Pigeon. Elle est vice-présidente de l'Association des médecins omnipraticiens. Laurentie-Lanaudière et François Marin lui a parlé un petit peu plus tôt. Il est 16h14. Dans les prochaines minutes à l'antenne, on aura l'occasion d'écouter Mathieu Lessard, président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. On va parler de ses élèves du secondaire qui ne pourront plus progresser d'une année s'ils ont coulé leur matière.
Tout le contenu de votre radio dans une seule application. L'application CFNJ sur Android et Apple.
Bingo! Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 23 novembre. Gagne 40$ avec la ligne DI. Lionel Tremblay de Saint-Zénon. Joanne Beauchemin de Sorel-Tracy. Jacinthe Flamand de Manawan. Angèle Lefrançois de Saint-Gabriel. Ginette Cameron de Notre-Dame-de-la-Merci. Ginette Grégoire de Saint-Félix-de-Valois. Monique Paradis de Saint-Félix-de-Valois. Sarah-Jeanne LD de l'Épiphanie. Manuel Barry de la Présentation. Et Chantal Dubuc de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Remporte 1333 et 33 avec la carte pleine. Nathalie Lepage de Saint-Zénon, une carte achetée au dépanneur Rondeau. Gaëtan Rivet de Saint-Côme qui s'est procuré sa carte chanceuse au dépanneur RMRI. Et Céline Saint-Jean de Radon, une carte achetée au dépanneur Radon. Quant à la carte pleine de la deuxième chance, 600$, elle a été remportée par Alexandre Lorrain de Sainte-Julienne grâce à une carte achetée au Shell à Saint-Jacques. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5 000$ à gagner avec les 3 jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8$ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. Section Super Radio Bingo.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Saviez-vous qu'avec Promutuelle Assurance, une soumission en ligne se fait encore plus vite qu'un café latté? Gagnez du temps là, avec notre soumission en ligne rapide. En seulement 4 minutes, vous obtiendrez un prix pour assurer votre auto, maison, condo, appart, moto, motoneige, VR ou tout autre véhicule. Des prix qu'on aime, vite de même, c'est pas étonnant qu'on nous recommande autant. Demandez dès maintenant votre soumission en ligne sur promutuelleassurance.ca/rapide. Les conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la.
Quand je pense au Québec de demain, j'imagine une société plus juste, plus verte. La CAQ propose quoi? L'austérité et des conflits avec les travailleuses et les travailleurs. C'est assez. Le 29 novembre, prenons la rue pour le Québec que nous voulons. Un message des principales organisations syndicales du Québec.
Logement, itinérance et coût de la vie, le Québec est en crise. Après 7 ans au pouvoir, la CAQ coupe dans les services publics et s'attaque aux droits des travailleuses et des travailleurs. C'est assez. Le 29 novembre, prenons la rue pour le Québec que nous voulons. Un message des principales organisations syndicales du Québec.
Dès le 1er décembre, CFNJ devient la vraie radio du temps des fêtes. Devinez quelle chanson de Noël va débuter officiellement cette période, le 1er décembre à 7h35, et courez la chance de gagner une souffleuse Cob Cadet d'une valeur de 3 000 $ offerte par les trois frères équipements de Saint-Jacques-de-Montcalm. C'est simple, allez vous inscrire à cfnj.net section concours et soyez à l'écoute lundi 1er décembre à 7h35. Pour participer, il faut être membre de CFNJ. Devenez-le dans l'espace membre à cfnj.net. CFNJ, la vraie radio du temps des fêtes.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Zénon, Berthierville, Joliette, Terrebonne.
CFNJ, 99.1, 88.9.
La Naudière PM, éducation.
Saviez-vous ça, vous, que les élèves du secondaire pouvaient, même s'ils coulaient leur année dans une matière, pouvaient passer à un autre niveau, donc de secondaire 1 à secondaire 2, même s'ils n'avaient pas donc passé à 60% leur année? Ben, en tout cas, c'était pas comme ça dans mon temps, mais il semble-t-il que depuis quelques années, ça se passait comme ça. On parle de déboulage dans cette pratique-là. C'est le nom de la pratique, le déboulage. Donc, ce qu'on apprend maintenant, c'est que les élèves ne pourront plus progresser s'ils n'ont pas réussi leur matière. Un élève qui a échoué, par exemple, ses mathématiques de secondaire 3 va devoir reprendre l'année suivante cette matière-là, cette année-là. C'est une bonne chose, parce que même, je pense, aux Français... Ça n'a pas de bon sens. Si on les laisse passer comme ça, de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5, sans avoir franchi le cap des 60%, imaginez-vous ce que ça donne quelques années plus tard à l'université. François Morin a eu l'occasion d'aller chercher la réaction du président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Mathieu Lessard.
Je dois vous dire que on montait à l'origine de cette disposition-là, là, qu'on appelle là, affectueusement le déboulage. Donc, c'est le fait de permettre à un élève qui n'a pas les acquis de poursuivre sa progression à partir du deuxième cycle du secondaire, donc à partir de la troisième secondaire, où on parle d'une obligation de promotion par matière. C'était pour des cas là, qu'on pourrait qualifier d'humanitaire. Donc, quelqu'un qui avait été absent pour une longue période, quelqu'un qui avait vécu un traumatisme au courant de l'année, puis que dans les circonstances, on n'était pas en mesure de lui attribuer la note de passage, mais qu'on avait bon espoir que tout allait se replacer l'année d'après. Mais là, c'est devenu un prétexte d'organisation scolaire. Au même titre que souvent, on va dire, ah ben là, les autobus gèrent les écoles, ben là, il y avait aussi le principe d'organisation scolaire. Donc, c'est pas plus facile de faire des horaires. Puis éventuellement, là, par la pensée magique, là, les élèves allaient quand même avoir des acquis là, par le temps. Alors que force est d'admettre que ça ne fut pas le cas, malheureusement.
Cette décision-là, est-ce que ça implique encore un autre changement dans l'organisation des classes? Parce qu'évidemment, là, il y a des jeunes qui pourraient effectivement se retrouver à deux niveaux, manquer un examen de secondaire 3, mais poursuivre l'évolution secondaire 4 et refaire l'examen de secondaire 3 en juin.
Non, on est dans une situation où les élèves là, qui effectuent ce qu'on appelle une promotion par matière ont un horaire dans lequel ils ont des cours en secondaire 3 et des cours en secondaire 4. Donc, au niveau de la conception de l'horaire, ça amène une logistique différente. Mais l'élève, lui, va continuer son cheminement. Puis une des façons qu'a trouvé l'employeur pour éviter justement ces heures-là d'organisation scolaire, c'est de déployer des cours d'été dans plusieurs matières, au-delà des matières à sanction du ministère, pour permettre aux élèves, pendant la période estivale, pour celles et ceux qui s'étaient inscrits, de pouvoir bénéficier d'une consolidation et d'être évalués afin de s'assurer que les acquis étaient maintenus, donc pouvaient obtenir pendant la période estivale les crédits manquants, donc la réussite des cours pour lesquels ils étaient en échec. Il n'en demeure pas moins que ça amène une gymnastique, et je reviens à ce que vous avez mentionné au départ, n'est-il pas logique que ce soit la réussite qui soit visée et non pas l'unique promotion pour suivre ses amis? Ben, poser la question, c'est y répondre.
Du côté du syndicat de l'enseignement, comment on accueille justement là, cette application d'une ancienne décision là, du ministre Drainville?
Ben, on est fort heureux parce que ça s'est vécu justement là à la rentrée scolaire. C'est une des mesures que nous, en FSA-CSQ, on avait mis de l'avant pour dire ça vient alourdir et complexifier la composition de la classe, hein, avoir des élèves qui n'ont pas les acquis, mais qu'on amène dans le cycle supérieur. Ça, c'est une réalité avec laquelle là, nos membres étaient confrontés. Ils devaient faire réussir des élèves qui, par la force des choses, n'avaient probablement jamais réussi, puis là, vous ne tomberez pas en bas de votre chaise, là, mais qui n'avaient probablement jamais réussi leur mathématiques depuis la deuxième année du primaire et qui se retrouvaient en mathématiques de secondaire 4, puis potentiellement en mathématiques de secondaire 5. Même chose pour les cours de sciences. Donc là, il faut arrêter de jouer dans un mauvais film. Il faut ramener les gens à la réalité. La culture de l'effort et du travail, le respect du curriculum, c'est primordial et c'est ça qui doit primer au-delà de l'organisation scolaire.
Et en bout de ligne, l'implantation de cette mesure-là va peut-être faire en sorte qu'il y aura moins de décrochage?
Ça peut faire en sorte, effectivement, qu'il y ait moins de décrochage parce qu'on va arrêter de pelleter par en avant les difficultés des élèves. Mais là, je suis obligé de vous dire que c'est magnifique, cette idée-là, à partir du deuxième cycle du secondaire, parce que c'est ce qui est prévu dans la loi sur l'instruction publique. Mais il y a encore beaucoup de laxisme au niveau du déploiement de ce qu'on appelle des règles de passage entre le primaire et le secondaire, puis je dirais même à travers même le primaire. Et actuellement, on est en train de mener une enquête justement pour évaluer quel est, le taux d'élèves qui progressent notamment au primaire, mais aussi au premier cycle du secondaire, sans avoir les acquis. Et là, encore une fois, c'est un mensonge éhonté qu'on énonce à la société québécoise. Hein, on se drape dans la vertu, mais au final, il y a une quantité d'élèves qui, d'année en année, progressent sans avoir les acquis, tels que prévus dans le programme de formation de l'école québécoise puis les progressions des apprentissages. Donc, bref, tout ce qui encadre l'évaluation puis la réussite des élèves, ben on se bouche les yeux parce qu'on se dit que peut-être, en troisième, quatrième, cinquième, sixième année, ils seront capables de faire de ce qu'on appelle de la deuxième année. Mais c'est ça, c'est un débat qui doit se poursuivre parce qu'au cœur de tout ça, c'est la réussite éducative des élèves qui est au cœur et c'est pas, des indicateurs de taux de performance puis de réussite du système qui doit être là. C'est vraiment les petits humains qui sont dans les classes au quotidien qui doivent être au cœur des décisions politiques.
En terminant, si je comprends bien tout l'argumentaire, c'est qu'il faudrait également penser aux élèves du deuxième cycle du niveau primaire.
Assurément qu'il faut revoir la manière avec laquelle on permet aux élèves de progresser au primaire. Cette décision-là, elle appartient aux centres de services. Chacun des centres de services au Québec peut avoir ce qu'on appelle des règles de classement puis des règles de classement et promotion différentes. Ce faisant, il faut arrêter de se boucher les yeux là, puis de dire qu'il y a une pensée magique puis que tout va se régler. Il faut nécessairement prendre à bras le corps cet enjeu-là pour redresser la situation de la réussite éducative au Québec.
Ben, c'était le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Mathieu Lessard, avec qui François Morin a parlé un peu plus tôt. Je vous avoue que moi, j'aurais bien sauté l'algèbre à l'époque. Tellement plate. Ah, mais quand même, c'est d'apprendre que, je la savais pas celle-là, que un élève qui coule une matière, souvent on pouvait lui faire sauter son année puis passer à l'année suivante sans qu'il ait passé son choix avec son 60%. Ben, coudonc. Il est 16h25, il y a le Bureau de l'assurance du Canada qui s'inquiète de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction et selon un rapport du Conference Board qui a été dévoilé aujourd'hui, le manque de travailleurs contribue à la hausse des coûts du logement. Et le Bureau de l'assurance estime pour sa part que la rareté de main-d'œuvre dans le domaine de la construction allonge aussi les délais de reconstruction à la suite de catastrophes naturelles. Il y a Maximilien Roy qui est président du Bureau de l'assurance du Canada qui commente.
La maison qui va coûter le moins cher à construire, c'est celle qu'on n'a pas besoin de reconstruire dans quelques années à cause d'une catastrophe naturelle. Alors vraiment, l'emphase doit être mise sur bâtir au bon endroit, s'assurer que le code du bâtiment est à jour pour justement utiliser les bons matériaux qui vont moins briser.
Et puis un petit mot sur l'actualité scène internationale. Il y a l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro qui a commencé aujourd'hui à purger sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État contre son rival Lula da Silva. Après l'épuisement de tous ses recours, et l'ancien dirigeant d'extrême droite, qui est âgé maintenant de 70 ans, était assigné à résidence depuis le début du mois d'août, mais il a été placé en détention provisoire en fin de semaine, samedi, pour risque élevé de fuite. Pourquoi? Ben parce qu'il avait tenté de brûler son bracelet électronique avec un fer à souder. Oui. Et puis, il essaie de se défendre en disant « Ah, oh, je voulais essayer de voir ce que ça donnait, ça, avec un fer à souder. » Ben, c'est ça. Alors là, donc, il se retrouve vraiment derrière les barreaux. Ça, rappelons que c'est le grand chum de Donald Trump. 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Route métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est plutôt dense et même passablement lent depuis le secteur Bourget, et ce jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN, donc passé le boulevard Henri Bourassa. Traversée quand même facile pour Charles de Gaulle. Repentigny, ça se passe assez bien. Sur la 40 Est, je remarque la 341 là, entre la 40 et la rivière l'Assomption. Là, c'est très lent, très lourd actuellement. Pont Le Gardeur, ça va très bien par Notre-Dame et l'approche Sherbrooke. Par contre, un petit peu dense en arrivant là, du côté de Repentigny. 25 Nord, oh, c'est dense depuis le boulevard Henri Bourassa, du côté de Montréal, et ça le demeure jusqu'à la hauteur de la jonction avec la 440 à Laval. Pour la suite des choses, on traverse aisément la rivière des Mille-Îles pour atteindre l'île Saint-Jean et Terrebonne. Pont Sophie-Masson, un peu dense à l'approche, sinon la traversée de la rivière des Mille-Îles est quand même assez facile, et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40, direction ouest, un peu nombreux à partir de la montée des Pionniers en direction ouest. Ouais, on peut dire que ça va quand même assez bien, malgré qu'on soit un petit peu nombreux, le secteur de la montée du Mai. Les nouvelles avec Pierre Jubinville dans un instant.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Chaque hiver, des familles réalisent trop tard que leurs parents n'est plus en sécurité à la maison. Au Manoir La Tourelle, les aînés profitent de l'intimité de leur studio avec les services de repas, d'entretien ménager et des soins adaptés. Nos places sont limitées, pensez-y maintenant. Visitez manoirlatourelle.com ou appelez le 450-271-1037 pour planifier une visite. Pour un milieu de vie chaleureux et sécuritaire.
Chez Lustre Auto Saint-Félix de Valois, redonnez de l'éclat à votre voiture. Lavage extérieur pour seulement 20 $ sans rendez-vous. Passez dès maintenant au 4164 rue principale à Saint-Félix de Valois. Lustre Auto, propre, rapide et brillant.
Dès le 1er décembre, CFNJ devient la vraie radio du temps des fêtes. Les grands classiques de Noël et du temps des fêtes seront au rendez-vous tous les jours de la semaine et du week-end. Faites de CFNJ votre radio au bureau, dans votre commerce, en auto, à la maison et au chalet. Vivez pleinement ce temps de réjouissance au son de votre radio dans la Naudière. CFNJ 99.1 88.9, la vraie radio du temps des fêtes.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks Play S 2025 en location 60 mois à partir de seulement 76 $ plus taxes par semaine sans aucun compte initial. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ah, mais je lève mon chapeau à Pierre Jubinville qui a passé la journée à se taper un énoncé économique plate à mort.
pas très divertissant.
Non. Et tout au plus, ben, on peut parler d'un léger répit pour les contribuables bien.
Ouais, l'économie se porte mieux que prévu. C'est déjà une bonne nouvelle. Et permet au ministre des Finances d'en faire profiter les Québécois. C'est un petit répit.
Après une période difficile où les déficits records se sont succédés, le ministre des Finances, Éric Girard, peut respirer un peu.
Les finances publiques sont en ordre, l'économie est résiliente.
Ainsi, Québec va indexer le régime fiscal de 2 % et réduire les contributions des travailleurs au RRQ et au RQAP, ce qui se traduira par des économies moyennes individuelles de 182 $ pour 2026.
Pour une famille avec deux revenus de 50 000 $ ce sera 440 $
Mais pas question d'utiliser les surplus du fonds vert pour réduire la taxe sur l'essence.
On pense que la meilleure des solutions ici, c'est de ne pas bouger sur la taxe sur l'essence.
Et même si les tarifs américains font mal à l'économie, le ministre Girard demeure optimiste.
Oui, il y a des risques pour 2026, mais au-delà de ces risques, l'économie du Québec est extrêmement résiliente.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Bon, évidemment, Pierre, les réactions sont nombreuses.
Sitôt déposé, sitôt critiqué, on écoute celle du Parti libéral et Frédéric Beauchemin.
Le gouvernement de la CAQ a décidé de réduire ça pour augmenter la paye nette des Québécois. OK, mais ça n'a rien à voir avec la gestion caquiste de bien gérer nos finances publiques. On fait face au gouvernement de la décote et des 7 déficits. Une première dans l'histoire du Québec.
Robert Gazal de Québec solidaire trouve également risible les gains pour les citoyens.
11 $ par mois dans leur poche, ça c'est un trio Big Mac, c'est tout. Rien pour le logement, alors que les hausses de loyer ont été quoi, de 40, 50, il y a même des gens qui ont eu des hausses de loyer de 150 $ par mois, c'est totalement inacceptable, ça aide pas la population qui souffre de la crise du coût de la vie et de la crise du logement.
J'aime bien le comparatif de Ruba Gazal avec le trio Big Mac.
C'est une belle image.
Belle image, tout à fait. Et le gouvernement a prévu des sous pour l'industrie forestière, mais ça semble quand même timide.
Oui, c'est très timide. On parle de 43 000 $ par année pour une industrie qui brasse des affaires de plusieurs millions. Alors, François Legault lui a confirmé qu'il rencontrera demain les représentants de l'industrie forestière, aux prises évidemment avec ces fameuses taxes Trump de 45 %. Le directeur de la Scierie Saint-Michel, Jean-François Champoux, doit participer à la rencontre. On se souviendra, Claude, que M. Legault a lâché une bombe il y a quelques semaines en affirmant que la moitié des 60 000 emplois liés à la forêt pourraient disparaître et depuis, il tente de réajuster le tir. Dans cet énoncé économique, Québec prévoit 250 millions sous forme de congés temporaires de taxes sur la masse salariale. Mais déjà, la mesure est critiquée, entre autres par la Fédération québécoise des municipalités.
Maintenant, on aide aussi spécifiquement deux secteurs qui en ont bien besoin. On donne un 6 000 $ par année aux agriculteurs. Puis on donne, en moyenne, dépendamment de la grosseur de la production, puis on donne une moyenne de 43 000 $ pour chaque entreprise forestière par année. Donc, puis d'ailleurs, je rencontre demain les représentants de l'industrie forestière. Je sais que c'est très difficile pour eux autres avec le 45 % de tarif.
Et c'était reprise des travaux à l'Assemblée nationale et l'affaire Risky qui a dominé les questions.
On peut dire que malgré leur absence, Mme Risky et M. Marissal sont sur toutes les lèvres. C'était donc la reprise des travaux et on a parlé à peu près que de ça.
Pablo Rodriguez se garde bien de dire qui a raison.
Je sais toujours pas ce qui s'est passé.
Dans le bras de fer qui oppose Marois Risky à son ex-chef de cabinet Geneviève Hinze, qu'elle a congédié sans le consulter.
Je dois être prudent, je ne dois pas me prononcer sur le fond de la chose parce que ça s'en va en cours.
Une semaine après le début de la crise, le chef libéral n'est toujours pas en mesure d'y voir plus clair.
Je cherche à savoir ce qui s'est passé en parlant à Mme Risky.
Mais Marois Risky garde le silence sur les fautes graves qui auraient motivé le congédiement.
Je lui ai demandé, je lui ai écrit la semaine dernière, pour la rencontrer, j'ai pas encore de nouvelles.
En pleine zone grise, Pablo Rodriguez reconnaît que toute cette affaire qui sera aussi portée devant les tribunaux fait surtout mal paraître le Parti libéral.
Je pense que elle fait mal au parti.
Philippe Rodrigue, Como Cogeco Nouvelles, Québec.
Et le chef du Parti québécois, lui, ne ferme pas la porte au transfuge, Vincent Marissal.
Oui, le transfuge qui est devenu indépendant, mais pas avant les élections de 2026. Le député de Rosemont a assuré que rien n'était encore attaché avec les péquistes, mais le chef péquiste a abondé dans le même sens ce matin.
Vincent Marissal n'a pas de transfert au Parti québécois, il va comme indépendant. Maintenant, est-ce qu'il peut... On peut envisager la possibilité où est-ce qu'il se présente aux prochaines élections sous la bannière du Parti québécois, ben la porte n'est pas fermée, mais il est un peu tôt là, pour disposer de ça. Le rendez-vous dont il est question, c'est-à-dire le rendez-vous électoral de 2026, il est dans plusieurs mois, il y a du temps amplement devant nous.
Puis comme nous disait Pierre Paquette hier, ce qui serait bien dans tout ça, là, si Vincent Marissal veut se présenter pour le PQ dans Rosemont, ce serait une course à l'investiture, logiquement. Là.
Oui.
Et finalement, bon, on s'inquiète du départ possible de plusieurs médecins dans la Naudière.
C'est la Fédération des médecins omnipraticiens Laurentides de la Naudière qui affirme que la région n'a pas les moyens de perdre un seul médecin. Pourtant, on estime que 27 médecins de famille ont signifié l'abandon de leur pratique ou un changement d'orientation à cause de cette loi 2 adoptée par le gouvernement. On écoute la vice-présidente de la Fédération, Laurie Vignola-Pigeon.
Donc, pour nous, c'est vraiment très préoccupant, là. Donc, on n'a pas le moyen là de perdre un médecin. En perdre 27, dans ma tête, c'est une catastrophe. Puis je pense qu'il faut aussi voir tout l'effet pervers qu'on va avoir, que cette loi-là va avoir sur le recrutement. Donc, les nouveaux médecins qui sortent, là, ben, je pense qu'ils ont rapidement compris là que la médecine familiale, c'était pas la priorité. C'était l'endroit où ça va être le plus difficile dans les prochaines années de pratiquer.
Ben, Pierre Jubinville, je ne te retiendrai pas plus. Je te souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée à toi.
Il est 16h37.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est la Naudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
La Naudière PM. Relations de travail.
L'intersyndicale du 6 de la Naudière trace le bilan de sa campagne « Je dénonce » qui visait à mesurer les impacts des compressions commandées par Santé Québec. Et le ménage se poursuit selon le président du syndicat CSN des travailleuses et travailleurs du 6, Simon Deschênes, à qui François Morin a parlé un peu plus tôt.
Au-delà des abolitions de postes qu'on a déjà discutées, qui a eu son impact évidemment, il y a le gel d'embauche du personnel de bureau et de l'administration qui continue depuis décembre 2024. Ce personnel-là qui est tellement essentiel au bon rouage du réseau, par exemple gérer la paie, s'occuper que les gens rentrent demain à la liste de rappel. Mais au-delà de ça, on entend les médecins parallèlement qui se font mettre de la pression par le gouvernement pour prendre plus de patients. Eux-mêmes le disent, ce que ça prend, c'est plus de personnel de bureau. C'est comme ça qu'on va être capable d'aller prendre une plus grosse charge. Donc là, encore le gel d'embauche, et ça a ses conséquences. L'employeur ne les remplace plus quand il s'absente. Ça, c'est sans compter dans les CLSC, les prêts d'équipement comme les chaises roulantes, appuie-bras. L'employeur, maintenant, ne paie plus pour ça, donc offre plus des équipements à la clientèle en soutien à domicile, prétextant que bon, le coût engendré pour le transport, la manutention, la réparation, ce serait trop élevé. Et semble-t-il que c'est même pas prévu au régime public. Donc, la Naudière, on était une exception. On offrait plus de services qui est prévu au régime public. Évidemment, notre employeur est forcé de couper ça parce sinon, Santé Québec ne donnera pas plus d'argent. Ça, c'est une chose. Peut-être que je pourrais compléter parce qu'il y en aurait tellement. Mais en CHSLD, dans les cuisines, la nourriture, ça, c'est, on en a beaucoup parlé, les cuisinières, cuisiniers. Le CIS a revu l'ensemble des achats, renégocié le brocoli, le céleri. Et à travers ça, mais maintenant, les aînés n'ont plus de petits desserts en CHSLD. On leur offre que du pudding, du jello, de la compote de pommes. Le pire endroit qu'on a eu, c'était à Saint-Donat la semaine dernière. On nous a montré là, une très, très mince tranche de melon au miel. Maintenant, c'est ça qu'on donne aux aînés qui ont servi le Québec, qui ont payé leurs impôts. Là, maintenant, on coupe dans les services et on entend beaucoup parler de ça. Je compléterais peut-être avec le simple fait que pendant ce temps-là, le gouvernement avait une loi qui devait, bienveillante, là, agir en prévention dans les milieux de travail, forcer les employeurs à mettre plus d'accent sur la prévention. Par contre, il y a une loi qui est venue contredire ces propos en disant que dans le réseau de santé, ça s'appliquera pas. Or, on vit de plus en plus de cas de violence dans nos milieux de travail. C'est extrêmement difficile. Récemment, vous avez certainement entendu parler de la travailleuse dans un centre jeunesse qui s'est fait attaquer, laissée pour morte. Heureusement, elle est vivante. Mais la morale de l'histoire, c'est que nous, ça fait des années qu'on dit qu'il faut mettre plus d'argent pour avoir plus de personnel pour sécuriser le monde. Et l'employeur a toujours refusé, faute de budget. La CNSST a récemment tranché et ordonné d'admettre deux personnes en tout temps sous surveillance. Et là, ben, c'est Santé Québec devait approuver le budget avant qu'on puisse aller de l'avant. Fait que même quand la santé du monde est en danger, faut que Santé Québec approuve. Ça, ce n'est que 4-5 éléments que je vous donne aujourd'hui parce qu'il y en avait beaucoup là, de cas de dénonciation.
On va faire une petite parenthèse. Est-ce que on a chiffré, est-ce que le CIS a été en mesure de rendre des chiffres publics concernant les économies qu'ils ont pu réaliser?
Ben, aux dernières nouvelles, là, sur le coin d'une table en discutant avec le PDG, on parlait aux alentours de 20 millions. Évidemment, faudrait faire enquête sur exactement là, l'ensemble des chiffres. Sauf que 20 millions de dollars, tu sais, c'est gros là, pour du monde comme moi, comme vous. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement coupe, finalement, dépense des milliards de dollars dans des projets qu'on verra jamais le jour, comme Nordvolt, Saclic. Puis là, il y a le dossier patient électronique qui est très controversé. Puis c'est ça. Là, pendant ce temps-là, on coupe un mince 20 millions de dollars. Puis regardez les impacts que ça a déjà. Le personnel est à même de le constater.
Concernant le drame vécu à la DPJ, vous me dites que c'est Santé Québec qui doit approuver le budget. Il n'y a pas eu de réponse encore?
Oui, ben là, à l'heure actuelle, oui, c'est réglé. Bien que là, ben, le personnel ayant été mis sous pression depuis déjà plusieurs années, les gens sont rendus qu'ils ont peur d'aller travailler là. Le dernier événement, ils ont pas mal tous traumatisés, puis c'est légitime. Fait que oui, mais le fait cocasse, c'est qu'il fallait agir maintenant, mais qu'avant d'agir, ben c'est ça, il aura fallu qu'il y ait un téléphone qui se fasse à Santé Québec. Et on n'a même pas une marge de manœuvre locale, une autonomie pour gérer les crises. C'est ça qu'on a compris de cette histoire-là.
Déjà, toutes les formations politiques s'activent en vue de l'élection d'octobre 2026. Alors, j'imagine que du côté syndical, on surveille justement les mouvements de très près.
Bien, assurément, surtout avec tous les projets de loi les plus loufoques qu'on a vus passer dans les derniers mois, entre autres le projet de loi qui vise à revoir les cotisations syndicales. On est en assemblée avec nos membres dans les dernières semaines, puis on a fait le point là-dessus parce que M. Boulay, qui se prend pour le ministre des Travailleuses et des Travailleurs et qui n'a pas consulté, dit qu'il faudrait nous rendre plus transparents. Or, à la CSN, c'est clair depuis des années, les budgets sont transmis à tous nos membres, même ceux qui sont pas aux assemblées, on leur donne les explications, les budgets sont votés. Alors, l'intégration d'une cotisation facultative pour plus de transparence, moi, je appelle ça de l'ingérence. J'appelle ça chercher des boucs émissaires et mettre le projecteur ailleurs que sur les problèmes qu'on vit. Parce que vous l'avez dit, la CAQ, je suis pas ben d'espoir avec la revisite budgétaire aujourd'hui. Puis, tu sais, ben, c'est ça. Quand des hommes d'affaires gouvernent le Québec, ben, ils vont favoriser l'élite québécoise. Puis, les décisions qui sont prises, on l'a vu là, durant le mandat au grand complet. C'est jamais pour les travailleuses et les travailleurs. C'est jamais pour la classe ouvrière. Et c'est pas plus pour les citoyens et citoyennes, malgré ce qu'il dit.
Et j'imagine, en terminant, qu'il y aura une forte délégation lanaudoise le 29 à Montréal.
Assurément, oui. D'ailleurs, on me disait hier qu'il y a des autobus supplémentaires qui ont été loués parce qu'il y a une forte participation à ce rassemblement à Montréal. Un rassemblement pas simplement syndical, là, je veux le souligner, c'est un rassemblement citoyen. On parle de crise du logement, on parle de crise climatique, l'inaction politique en santé, en éducation. Bien, tout ce beau monde-là qui ont légitimement des revendications vont les porter fort durant le rassemblement du 29 novembre prochain. J'aime dire que ce n'est pas une finalité en soi. C'est un point de départ. Je crois que les mouvements sociaux partent souvent par la rue. Je pense qu'il est temps qu'on se rassemble, qu'on réfléchisse ensemble, puis qu'on regarde, parce que oui, vous l'avez dit, puis je conclue avec ça, la politique, là, ça s'active, là c'est, la CAQ, c'est fini, semble-t-il. Donc là, tout le monde voudrait faire mieux. Il faut que la population sème les prochains gouvernements à dire c'est quoi que ce sera vos priorités, parce qu'en ce moment, là, on a eu des mandats gouvernementaux qui n'ont pas été là à l'écoute et ni pour les personnes, les citoyens, les citoyennes. Donc, on va, oui, exiger à ces prochains partis de s'engager à agir, oui, en éducation, avec le logement et aussi, évidemment, avec la santé.
Voilà, c'était Simon Deschênes, le président du syndicat CSN des travailleuses et travailleurs du CIS de Lanaudière, à qui François Morin a parlé un peu plus tôt. 16h44, dans un instant, Jacques Plante.
Combattre le froid par le froid. C'est ce que propose la fromagerie Victoria de Berthierville avec sa crèmerie ouverte à l'année. Crème glacée molle, Vic Mix, Sundae, Slush, trempage de chocolat belge, on en a vraiment pour tous les goûts. En salle à manger, au service au volant ou en livraison, pas besoin d'attendre l'été pour vos plaisirs glacés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
Vu chez Super C, une coiffeuse professionnelle bien impressionnée par la coupe toute fraîche de son boucher. Parce que chez Super C, nos boucher coupe la viande en magasin. Puis en plus d'être vraiment bonne, notre viande est à super prix. C'est super, Super C. Détails et conditions au superc.ca.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fasciite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromée. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Le samedi 29 novembre, au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois, Sabin Jacques et Rachel Aucoin présentent un spectacle en hommage au compositeur et accordéoniste Philippe Bruneau. Les billets sont disponibles en ligne à crapaud.qc.ca.
Chez JM Sport Saint-Gabriel, découvrez la puissance et la fiabilité légendaire des VTT Honda. Pour le travailleur qui exige le meilleur, Honda offre performance et durabilité à chaque départ. JM Sport Saint-Gabriel, votre accès nature toute saison. 450-835-3407.
Concours Calendrier de l'Avent.
40 jours pour les 40 ans.
L'indice du jour. Célébration.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Oui, salut Jacques.
Salut Claude, bon après-midi tout le monde, célébrons.
Et on a appris ce matin que le référendum de 1995 a bel et bien été volé par Jean Chrétien.
Et Dieu sait que dans son discours de fin de soirée, Jacques Parizeau, on le taxait d'avoir pris un peu trop de scotch.
Ouais, ouais,
en
ouais,
disant
ouais.
que c'était, on s'était fait voler, puis c'était bon à cause
en raison de l'argent, puis ouais. Du vote ethnique.
Ouais,
et
c'est ça.
Jacques Parizeau, ben on peut le dire avec les révélations de ce matin, ben il avait raison, mais ouais. On le voyait. De toute façon, on le voyait déjà. Là.
Ouais, mais tu sais, moi, ce avec quoi j'ai un petit peu de difficulté, il faut le dire, là, c'est Québécois qui a sorti ça. Là.
Mm-hmm.
C'est qu'on a demandé, évidemment, aux partis actuellement, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et tout le monde y allait de son vocabulaire personnel. Là. PQ parle d'un référendum volé.
Non, c'est QS qui parle de référendum volé, je pense. Ouais, ouais.
Ah oui,
le PQ
oui.
parle de fraude organisée.
De ah, oui, oui, c'est vrai, t'as raison.
Oui.
Vois-tu, j'avais manqué une ligne. Là.
Mm-hmm.
Du côté de la CAQ, on disait que c'était un mépris de la démocratie.
Oui.
Bon. Puis je me rappelle pas c'est quoi le commentaire du côté de l'Union nationale avec Duhaime. Là, il va un peu, je pense, dans ce sens-là. C'est pas une surprise de voir qu'au niveau du Parti libéral du Québec, on dit qu'on voit pas grand-chose là-dedans.
Oh.
Ce qui a été avancé, c'est qu'à l'époque, en 95, le premier ministre canadien, c'était un certain...
Jean Chrétien.
Jean Chrétien. Il avait demandé à son ministre de l'immigration de l'époque, Sergio Marchi,
mm-hmm.
hein, si je le mentionne de belle façon. Sergio Leone, ça fait un peu... hein,
oui.
Ça fait western. Il lui avait demandé d'accélérer le traitement des demandes de citoyenneté en vue carrément du référendum.
Ben oui.
Hein? Donc ça, évidemment, ça vient régler l'équation que tout le monde a dit. On s'est fait voler par le vote de...
C'était une opération pour augmenter le vote ethnique et que ces gens-là ben, viennent de résider au Québec et puissent voter non, évidemment, puisque c'est tout à fait normal. Et là, je vais aller à l'encontre de ce que disait Pablo Rodriguez aujourd'hui en disant, ben ouais, mais j'ai des amis immigrants qui ont voté oui. Oui, certainement des latino-américains probablement, mais ouais. La plupart des immigrants qui arrivaient à l'époque provenaient probablement en fait souvent de l'Inde, entre autres. Ils ne comprenaient pas trop grand-chose aux Français, à la situation du Québec, tout ça. Et puis, on venait de leur offrir la citoyenneté canadienne sur un plateau d'argent. Eh bien, ils n'allaient pas voter contre le Canada. C'était clair.
Tu sais, on le dit souvent, hein, oui, il y a un pan un pan de l'immigration qui regarde les territoires et les provinces. Mais en majorité, au-dessus de tout ça,
oui.
L'immigration, c'est fédéral.
Oui.
Quand des gens reçoivent leur citoyenneté, moi, j'ai déjà assisté à une cérémonie quand j'étais dans le bureau du député, là, à l'époque. Là.
Mm-hmm.
J'ai fait ça avec la ministre Yolande James.
Oui.
OK?
Oui.
Elle était présente, puis il y avait des gens du fédéral qui étaient là, du côté de Rawdon. OK?
Oui.
Ces gens-là, là, on les félicite de leur citoyenneté, on leur met un beau petit papier, il y a plein de drapeaux du Canada, puis on chante l'hymne national. Mm-hmm. Fait que pour eux autres, ben non, là, pour ça. Eux autres, écoute, là, le drapeau du Canada, c'est le Canada, c'est, mm. tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on a, on prend le temps de leur expliquer un peu comment ça fonctionne.
On ne peut pas reprocher ça aux immigrants.
Non, exactement.
Mais vraiment pas.
Exactement.
Ce qu'on peut faire, c'est de le reprocher à Jean Chrétien et, bon, en fait, au parti qui était au pouvoir au Canada en ce moment, à ce moment-là, de
d'avoir
pas
profité
avoir,
de l'occasion.
C'est ça. Et de pas avoir joué à fair play.
Ben, d'avoir profité de l'occasion. Oui. Mais moi, il y a aussi l'autre côté de la médaille. On parlait de Jacques Parizeau tantôt. Mm-hmm. Il y avait un autre gars pas loin de lui qui s'appelait Lucien Bouchard.
Lucien Bouchard, oui.
C'était pas des derniers nés en politique, là.
Non.
Est-ce que ces gens-là s'attendaient à ce qu'il y ait moi, j'ai jamais compris ça. Aucune réplique de la part d'Ottawa. Que Chrétien et compagnie se seraient croisés les bras et les jambes et se seraient assis dans leur chaise berçante en disant « On va attendre le résultat. » Pas sûr, moi, là.
Et dans tout ça, pour la part de pour revenir à ce que Jacques Parizeau disait, l'argent et le vote ethnique, il y a la question de l'argent. Et ça, on n'en parle pas, mais ça, c'était comment ça s'appelait?
Option nationale.
Option Canada.
Option Canada.
Option Canada.
Oui, c'est ça.
Et là, il y a du gros, gros, gros cash qui est venu d'Option Canada.
Des affaires de publicité qui n'avaient pas de bon sens.
Oh,
là,
oui,
bon.
Oui. Patrimoine, puis c'est ça.
Du moment que tu pouvais identifier le petit drapeau canadien, tu avais une subvention.
Les minutes du patrimoine, hein?
Oui, oui.
Ben, c'est ça. Justement, les gens qui... Le fameux grand Lovin, les gens qui étaient venus à Montréal, les Canadiens qui avaient pris l'avion gratuitement, nous dire à quel point ils nous aimaient puis ils voulaient nous garder dans le Canada, ben ça fait partie de ces...
Mais comme je te disais, je sais que le temps file, comme je te disais, Claude, il y a une partie où, oui, ils se sont fait chanter à pomme par les fédéraux, mais en quelque part, les provinciaux ont peut-être manqué leur coup.
Oui, oui.
Et si
ils n'ont pas été vigilants.
Oui, et si je te dis ça, c'est que c'est tout frais encore, là. J'entendais l'entrevue que Claude Charron a donnée à un journaliste de Radio-Canada.
Hier, à Patrice Roy, oui.
Hein, il est sorti, là, ça fait longtemps, M. Charron.
Oui.
Là, il est sorti publiquement. Et lui disait, moi, je suis prêt à aller donner un coup de main à Paul Saint-Pierre Plamondon. Je suis vieux, il a dit, il avait 80.
Il arrive à 80.
80.
Oui.
Il est encore en forme, j'espère être aussi en forme que lui à cet âge-là. Et il disait, moi, je suis prêt à aller parler aux gens de mon âge, puis je suis prêt aussi à aller parler aux autres personnes. Je vais pas perdre du temps à aller parler à ceux qui sont pas de notre bord. Alors, c'est peut-être ça qui a à faire aussi beaucoup d'éducation.
Exact. Hein? Merci beaucoup, Jacques Plante.
Salut.
Lanaudière PM. Communautaire.
Si vous avez recours aux banques alimentaires, sachez que les banques alimentaires vont devoir, dès le mois de mars prochain, vous soumettre à un questionnaire pour s'assurer que l'aide va à la bonne place. Et pas question de verser là, dans la discrimination. On nous dit, chez Moisson-Lanaudière, on a déjà formé des intervenants d'organismes partenaires dans la gestion de ce nouvel outil de travail là, qui a trouvé le financement là, pour 25 ordinateur, parce que c'est évidemment on gère ça avec de l'informatique. François Morin en a discuté avec la directrice générale de Moisson-Lanaudière, Céline Gauthier.
Ça fait 2 ans que le projet de numérisation des organismes communautaires est en marche, OK? On a commencé avec des projets pilotes la première année, puis après ça, ça s'est étendu à tout le monde, OK? Pour justement offrir la possibilité que ce soit facile d'accès, facile de le compléter. Je dois quand même dire que oui, il y a une démarche à faire pour inscrire tous les membres, là, toutes les personnes qui vont avoir droit au panier, OK, ou à de l'aide alimentaire. Mais un coup que ça s'est fait, après ça, ça roule tout seul. Tu sais, si la personne se pointe, tu la coches, puis tu as toutes ces informations, puis tu lui dis que tu as donné un panier. Ça s'arrête là, tu sais. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a un petit travail à faire au début, mais c'est quand même pas si pire que ça. C'est pas compliqué dans l'application. C'est juste le début, là, parce que, bon, c'est une plateforme qui est nouvelle, mais elle est très simple d'utilisation.
Parce qu'on l'a finalement testé, si je comprends bien, là, puisque vous me dites là, que c'est en application quand même depuis un certain temps. Donc, on a
testé. Oui, ça a été testé en projet pilote là, sur dans trois moissons, je crois, dont Laurentides, il me semble, Gatineau, Montréal, une partie de Montréal. En tout cas, ça a été testé, là. Tu sais, c'est pas arrivé de même, bang, là. Je dois vous dire que, bon, vous savez qu'on est dépendant des subventions gouvernementales, là, à plusieurs égards, dans le domaine de l'aide alimentaire. Et pour les gouvernements en place, c'est que ça leur donne un portrait beaucoup plus réaliste, tu sais, des besoins. Parce que là, tout va être consigné, dans le fond. Plus je suis consciente aussi de dire que le changement, là, c'est sûr que c'est... Le monde n'aime pas ça, le changement. Tu sais, les petites routines sont faites, ça roule bien. Ça va rouler bien après, là. Tu sais, c'est sûr que c'est un changement, là, numérique, en plus de ça. Donc, c'est... je comprends les gens, mais à quelque part, faut se conformer, là.
Est-ce que à la limite, parce qu'on dit que ça va être plus facile de entre guillemets, contrôler, est-ce que à la limite, effectivement, ça va être plus facile de gérer les inventaires en bout de ligne?
Je dirais pas les inventaires en bout de ligne, mais pour le gouvernement, parce que le gouvernement, autant fédéral que provincial, nous demande d'avoir des données le plus juste possible. Et nous, une fois par année, depuis 20 ans, au mois de mars, on faisait ce qu'on appelle le bilan fin. OK? Le bilan fin, c'est que ça obligeait tous les organismes à un moment donné de nous dire tu as combien de familles, c'est quoi le revenu à peu près, c'est quel âge ils ont. C'est toutes les données là, qui sont demandées là, au début là, qu'on dit là, qu'il faut rentrer. Ben, on les demandait à ce moment-là pour après ça déterminer bon, ça a l'air de quoi au Québec, puis au Canada, tu sais, ça a l'air de quoi au Canada? Donc, il y a combien de pauvreté, il y a combien de paniers qui sont donnés, il y a combien de collations, il y a combien de repas dans la province de Québec, mais également dans la Naudière, dans chaque région administrative, là, dans le fond. Là. Ça traçait un portrait. Sauf que là, c'est fait au mois de mars. C'est compilé, c'est traité et après ça, ça sort au mois d'octobre. Donc, déjà là, il y a comme un grand décalage dans le traitement de la donnée parce que la situation peut changer là en quelques mois, ben vous le savez, là, l'épicerie peut augmenter, les loyers peuvent augmenter, il y a toutes sortes d'affaires, des situations économiques également qui peuvent se passer. Donc, la situation change. Nous, on le sait, on se réajuste constamment auprès de nos organismes qu'on soutient parce que il y a la demande est plus grande, légèrement moins grande. Ben, souvent, c'est plutôt l'inverse. La demande est toujours en augmentant. Là.
Il y a des questions, je lis certains articles de journaux, là, il y a des questions, je ne qualifierais pas d'intrusives, mais on demande quand même la raison de la demande d'aide alimentaire. Les personnes au sein d'un même ménage doivent préciser leur état civil, leur niveau d'études. S'il y a des problèmes de santé mentale, comment
ça, je suis un peu surprise là pour les problèmes de santé mentale parce que à ma connaissance c'est pas demandé puis je trouve ça intrusif. Tu sais, je suis assez d'accord avec vous, mais pour si on regarde les recensements, on le demande, tu sais, votre niveau de scolarité, dans quelle tranche d'âge vous vous situez et votre revenu est situé entre c'est des braquettes là, tu sais, souvent là. Puis on a constaté aussi au cours des dernières années qu'il y avait énormément de personnes avec des revenus moyens qui là demandaient de l'aide alimentaire parce qu'ils n'arrivaient plus à cause justement de l'inflation, le prix des loyers qui a augmenté, le prix de l'essence à un moment donné qui avait augmenté aussi là de façon drastique, le panier d'épicerie. Donc ce sont des données qui aident aussi à voir c'est quoi le type de clientèle qu'on a.
On constate que c'est le portrait de la pauvreté qui change de plus en plus. C'était la directrice générale de Moisson-Lanaudière, Céline Gauthier. C'est déjà tout ce qui nous concerne pour Lanaudière PM. Je tiens à saluer et remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville ainsi que Jacques Plante. Ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. Dans un moment, Nicolas Bellemare sera avec vous pour vous présenter le 5 à 7 trad. Et nous, on est là demain, 16h, pour une autre édition de Lanaudière PM. Salut!